Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
Au programme, échanges, partages et discussions autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram.
Bonne écoute! Nous ouvrons notre micro à Agnès Koster, professeure à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Elle anime souvent un atelier au colloque de la DOC où elle parle des difficultés des apprenants avec l'orthographe lexicale. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode. Bonjour Agnès.
Bonjour Lucie.
Alors on va commencer tout de suite. Rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi l'orthographe ?
Oui, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, avant tout, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Donc, quand on parle de difficultés orthographiques et pour savoir, dans le fond, quelles sont les difficultés orthographiques de nos élèves, il faut avant tout avoir une bonne maîtrise du code orthographique. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne comment il est constitué, ce code orthographique en français. Et il est particulièrement complexe, ce code-là, d'où les nombreuses difficultés que certains de nos élèves ont. Donc, le code orthographique, c'est quoi? C'est trois propriétés. C'est des propriétés phonologiques, morphologiques et visuelles. Et pour chacune de ces propriétés, on peut retrouver des difficultés chez nos élèves. Donc, les propriétés phonologiques qui sont liées au principe phonogrammique, en fait, c'est tout simplement le fait que nos graphèmes vont transmettre un son. En fait, la plupart des graphèmes vont transmettre un son, donc un phonème. Et ces graphèmes qui transmettent un son, on les appelle des phonogrammes. En français, on a une relative transparence des correspondances graphèmes-phonèmes. Donc, en lecture, quand on reconnaît un mot, il y a une relative transparence là, entre les unités écrites et les unités orales. À l'inverse, en écriture, en production de mots, on a seulement 50% des mots qui peuvent être bien orthographiés lorsque le scripteur se base uniquement sur les correspondances phonèmes-graphèmes. Donc, on voit que la production de mots écrits est plus complexe que la reconnaissance des mots écrits et que le fait que seulement 50% des mots peuvent s'écrire correctement si on se fie seulement aux propriétés phonologiques peut impliquer des erreurs évidemment orthographiques si on ne se base pas sur d'autres connaissances en lien avec les autres propriétés du code orthographique qui sont les propriétés morphologiques et visuelles. Donc, pour revenir aux propriétés morphologiques, c'est quoi? Ces propriétés sont liées à ce qu'on appelle le principe morphogrammique, selon lequel des graphèmes vont permettre de marquer le genre et le nombre des noms et des adjectifs, mais aussi tout ce qui est accords verbaux. Et aussi, les propriétés morphologiques réfèrent au fait que certaines marques graphiques vont permettre de faire le lien entre un mot et sa famille lexicale. Donc, on va parler de morphogrammes grammaticaux et morphogrammes lexicaux. Donc, les morphogrammes grammaticaux vont référer à tout ce qui est genre et nom des noms et des adjectifs et à tout ce qui est accords verbaux. Et les morphogrammes lexicaux réfèrent au lien justement entre un mot et sa famille lexicale. Plusieurs élèves vont éprouver des difficultés dans la mise en application de ce principe morphogrammique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les difficultés vont principalement référer aux morphogrammes grammaticaux et donc à l'orthographe grammaticale. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas seulement nos élèves en difficulté qui ont des difficultés à mettre en application ce principe morphogrammique, mais c'est vraiment l'ensemble des élèves. Quand on regarde toutes les erreurs dans une production de texte chez des élèves de 10 à 12 ans, donc si on ne fait pas la distinction entre orthographe lexicale et grammaticale, c'est 50% des erreurs qui réfèrent aux morphogrammes grammaticaux, donc à l'orthographe grammaticale. Donc, évidemment que nos élèves en difficulté vont eux aussi avoir des difficultés en lien avec ces morphogrammes et particulièrement avec les morphogrammes grammaticaux. Donc, pour pouvoir reconnaître correctement des mots et les produire, l'enfant doit développer des connaissances phonologiques et morphologiques, mais aussi des connaissances en lien avec les propriétés visuelles des mots. Et donc, on va parler du principe visuogrammique qui réfère au fait que certaines configurations orthographiques vont permettre à l'enfant de respecter la norme orthographique. Quand on parle des propriétés visuelles, il y a deux grands ensembles. On va parler des phénomènes sublexicaux, donc à l'intérieur des mots, et des phénomènes lexicaux ou supralexicaux, donc qui réfèrent soit aux mots, voire à une séquence de mots. Donc, on va parler, par exemple, des phénomènes liés aux règles de positionnement. On va parler de la multigraphémie, donc les sons qui s'écrivent différemment. On va parler des lettres muettes non porteuses de sens. Donc, contrairement aux morphogrammes grammaticaux et lexicaux qui sont porteurs de sens, on a aussi en français des lettres muettes qui sont non porteuses de sens, comme le S de toujours, par exemple, le E de table. On va parler aussi de l'irrégularité orthographique, donc comme les mots comme monsieur, par exemple. On va parler de la légalité orthographique. Pour ce qui est des phénomènes lexicaux, supralexicaux, on va parler de l'homophonie, puis du respect des frontières lexicales. Donc, c'est un ensemble de phénomènes dont on doit tenir compte pour pouvoir respecter la norme et plusieurs élèves vont éprouver des difficultés en lien avec ces propriétés-là. En fait, c'est entre 50 et 75% des erreurs en orthographe lexicale qui sont liées à la non-prise en compte de ces propriétés visuelles des mots. Donc, on voit pour chaque propriété, ben, on a des difficultés, on peut avoir des difficultés associées. Donc, bien connaître le code orthographique, ben, va nous permettre de cibler les difficultés. Est-ce que les difficultés de mon élève sont plutôt phonologiques, sont plutôt morphologiques ou sont plutôt d'ordre visuel?
Justement, quand on est face à une copie d'élève où on voit beaucoup d'erreurs, qu'est-ce qu'il faut considérer dans l'évaluation justement de l'orthographe?
Oui, donc quand on considère l'orthographe, comme je viens de le mentionner, on a deux types d'orthographe. On a l'orthographe lexicale et on a l'orthographe grammaticale. C'est important de les dissocier parce que ce n'est pas les mêmes stratégies qu'on va enseigner à nos élèves lorsqu'on traite d'orthographe lexicale et lorsqu'on traite d'orthographe grammaticale. Ce n'est pas les mêmes procédures qui sont mises en place, ce n'est pas les mêmes stratégies qui vont être mises en œuvre. Donc, c'est important de les différencier. Donc, avant tout, quand on considère l'évaluation de l'orthographe, il faut distinguer l'orthographe grammaticale de l'orthographe lexicale. Pour ce qui est de l'orthographe lexicale, ça va être important, comme je l'ai mentionné, de distinguer les erreurs phonologiques, morphologiques et visuelles. Et pour pouvoir le faire, il faut avoir une bonne connaissance du code. Ensuite, il faut tenir compte aussi des sous-types d'erreurs. Donc, à partir du moment où on se dit que c'est une erreur phonologique, mais quel type d'erreur phonologique c'est? Est-ce que c'est une erreur d'inversion de graphème, par exemple? Est-ce que c'est une erreur d'ajout de graphème? Est-ce que c'est une erreur d'omission de syllabes? Parce que ça peut être les syllabes qui est problématique ou d'omission de graphème. Donc, on va se poser des questions sur le type d'erreur spécifique qui est rattaché aux propriétés phonologiques. On va aussi se poser des questions sur la morphologie. Donc, si on parle d'orthographe grammaticale, est-ce que c'est une erreur en lien avec le genre? Est-ce que c'est une erreur en lien avec le nombre? Est-ce que c'est une erreur d'accord verbal? Et on va faire la même chose pour ce qui est des propriétés visuelles. Donc, on va regarder si donc les sous-types d'erreurs en lien avec les propriétés visuelles. Donc, est-ce que mon élève fait de nombreuses erreurs en lien avec la multigraphémie, en lien avec les lettres muettes non porteuses de sens? Est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs en lien avec les homophones? Donc, si c'est le cas, et s'il n'y a pas, par exemple, d'erreur phonologique ni d'erreur morphologique, mais il pourrait y avoir dans un texte plusieurs erreurs en lien avec la multigraphémie et l'homophonie. Donc là, on pourrait cibler les propriétés visuelles des mots et donc développer chez l'élève ses connaissances spécifiques rattachées au code orthographique. Donc le fait de diviser, en fait, de catégoriser les erreurs dans une production, ça peut être un mot évidemment, ça peut être une phrase ou un texte, donc en fonction de ce qu'on évalue. Le fait de catégoriser les erreurs phonologiques, morphologiques et visuelles, puis de les sous-catégoriser par la suite, ça va vraiment nous permettre de cibler quelles sont les erreurs les plus fréquentes, puis après de mettre des interventions en place qui sont le plus adéquates en fonction du portrait qu'on obtient de l'élève. Quand on évalue l'orthographe aussi, il faut considérer le contexte d'évaluation. Est-ce qu'on évalue à l'oral ou à l'écrit. Donc, il y a deux contextes d'évaluation. Donc, c'est important d'évaluer les deux. Pourquoi? Parce que les résultats de recherche nous montrent que les résultats ne sont pas nécessairement les mêmes dans un contexte oral et écrit. Donc, l'enfant pourrait avoir des performances plus élevées à l'oral et à l'inverse, pour d'autres tâches, il pourrait avoir des performances plus élevées à l'écrit. Donc, pour avoir un portrait le plus précis possible de la compétence orthographique de nos élèves, ça va être, dans la mesure du possible, important d'évaluer dans les deux contextes ou en tout cas tenir compte du fait que si on évalue qu'à l'oral ou qu'à l'écrit, faut que notre interprétation soit nuancée. Mais dans un monde idéal, ce serait dans les deux contextes là qu'on évaluerait nos élèves. Donc, pour donner un exemple, si j'évalue par exemple la connaissance des frontières lexicales, donc c'est ce qui réfère au respect des frontières lexicales, qui est un des phénomènes lexicales, supralexicales, en lien avec les propriétés visuelles des mots. J'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Donc, si on évalue le respect des frontières lexicales, on peut le faire à l'oral et à l'écrit. Donc, à l'oral, on pourrait par exemple demander à l'enfant de compter le nombre de mots dans une phrase prononcée à l'oral. Et on pourrait le faire à l'écrit. À l'écrit, on nomme évidemment tous les blancs graphiques et on demande à l'enfant de segmenter les mots par des petites barres obliques, puis de compter le nombre de mots. Et les résultats nous montrent que les résultats ne sont pas les mêmes. Les performances varient en fait d'un contexte à l'autre. Donc, c'est important d'évaluer dans la mesure du possible dans les deux contextes. Et finalement, ce qui est important aussi quand on évalue l'orthographe, c'est de considérer la complexité des tâches. Parce qu'encore une fois, les résultats de recherche nous montrent qu'en fonction des tâches qu'on propose à nos élèves, les résultats vont varier. Donc, les tâches ne s'équivalent pas toutes en termes de contraintes cognitives. Et donc, encore une fois, si on présente juste une tâche, par exemple, de décision lexicale, où on demande à l'enfant, par exemple, est-ce que maison est un mot? À l'oral ou à l'écrit, on peut le faire, ce sera plus facile que de demander à l'élève de compter le nombre de mots, donc avec la tâche de comptage de mots dont j'ai parlé précédemment. Donc, on voit qu'il y a un degré de complexité qui varie d'une tâche à l'autre et il faut en tenir compte aussi. Parce que si on fait juste une tâche de décision, l'enfant pourra avoir une bonne réponse, puis on pourrait se dire, bon, là, ces connaissances sont acquises, il maîtrise cette connaissance-là. Mais si on évaluait l'élève à partir d'une tâche d'identification, par exemple, là, on n'aurait pas nécessairement les mêmes résultats et l'enfant ne réussirait pas nécessairement cette tâche d'identification. Et donc là, ça vient nuancer en fait nos résultats pour la première tâche. Et on pourrait se dire, finalement, ce n'est pas tout à fait maîtrisé. Il faut que je continue à travailler cet objet d'enseignement ou cette connaissance-là pour que l'enfant l'acquiert correctement.
Wow, ça fait 10 minutes là, puis c'est déjà super intéressant. Il y a une multitude d'informations, c'est vraiment déjà riche. Wow. Et du coup, maintenant qu'on sait un peu comment on doit prendre en compte, quel élément on doit prendre en compte dans une évaluation, comment on choisit le type d'évaluation et comment on peut l'utiliser?
Oui, c'est une bonne question parce que dans un contexte orthopédagogique, on a peut-être plus le choix dans les outils d'évaluation qu'on a, dans le sens que il y a plusieurs orthopédagogues qui vont aller vers des outils standardisés, ce qui la plupart du temps n'est pas le cas chez les un titulaire de classe ou une enseignante au régulier ou même en adaptation scolaire. Donc, je dirais que l'orthopédagogue a peut-être un répertoire là d'outils un peu plus vaste. Et parmi tous ces outils qui sont à notre disposition, c'est quels sont les outils qu'on va pouvoir choisir. Donc, je dirais qu'il faut tout le temps partir de notre objectif d'évaluation pour choisir notre outil d'évaluation. C'est primordial. Notre objectif, il va nous servir à la fois à bien évaluer. Il va servir aussi à créer notre outil. Et il va servir à choisir notre outil. Donc, choisir l'outil, c'est si on dispose d'outils déjà faits, comme des tests standardisés, par exemple. Et quand c'est des tests qui ne sont pas encore faits, c'est notre objectif qui va nous permettre de créer notre outil d'évaluation. Donc, on doit tout le temps partir de notre objectif d'évaluation. Est-ce que j'évalue toutes les propriétés du code orthographique, en fait, toutes les connaissances de l'élève en lien avec chacune des propriétés, donc phonologique, morphologique, visuelle? Est-ce que je vise certaines connaissances seulement? Ça pourrait être, par exemple, seulement les connaissances visuelles de l'élève. Ça pourrait être parmi les connaissances visuelles, certains phénomènes, donc les lettres muettes non porteuses de sens et l'homophonie, par exemple. Donc, en fonction de l'âge de nos élèves, en fonction de leur niveau scolaire, en fonction de leurs difficultés, du portrait qu'on a d'eux à un moment donné, en fonction des objectifs où on est rendu dans l'année scolaire. Donc, en fonction de tous ces facteurs-là, de tous ces critères-là, on va aller créer finalement notre outil d'évaluation. Donc, on va partir de notre objectif. De façon générale, on peut avoir, de façon en fait très générale, on pourrait avoir deux objectifs distincts. On pourrait avoir un objectif d'une évaluation partielle, puis ça, je dirais qu'on est vraiment dans une perspective formative. Donc, quand on fait une évaluation partielle, ça se fait tout au long de l'année, en fait. Donc, tout au long de l'année, on va évaluer nos élèves pour voir comment ils progressent et quelles sont les connaissances qui sont acquises, qui sont en cours d'acquisition, qui sont maîtrisées, etc., qui ne sont pas encore maîtrisées. Donc, quand on est dans cette perspective-là, on va faire une évaluation partielle. Et dans ce cas-là, l'enseignant ou l'orthopédagogue va cibler un ou des objets d'enseignement spécifiques. Donc, ça vaut dans les deux contextes. En fait, ça vaut quand on crée notre outil d'évaluation. Donc, par exemple, si j'utilise des mots pour évaluer mon élève, ben, je vais cibler des mots qui contiennent, par exemple, des phonèmes multigraphémiques, si c'est ce phénomène-là que j'ai envie d'évaluer chez mon élève. Si c'est les lettres muettes non porteuses de sens, ben, évidemment que je vais m'assurer que tous les mots que je présente à mon élève contiennent des lettres muettes non porteuses de sens. Puis ça vaut aussi quand j'évalue mon élève. Donc, par exemple, si on est dans un contexte de production de texte, ben, j'évaluerai pas toutes les erreurs de mon élève, mais je vais seulement cibler les erreurs qui portent sur les phonèmes multigraphémiques et les lettres muettes non porteuses de sens, qui sont, soit dit en passant, les deux types d'erreurs les plus fréquents chez les élèves, qui soient en difficulté ou non d'ailleurs. Donc, c'est deux phénomènes qui sont particulièrement complexes, avec l'homophonie aussi. Donc, ça vaut pour l'évaluation partielle. Hein. On va regarder quand on crée notre outil. Donc, on va s'attarder à la construction de nos mots ou de nos phrases. Et ça vaut aussi quand on évalue effectivement la production, que ce soit un mot, une phrase ou un texte. Donc, on va cibler seulement certains objets d'enseignement qui sont spécifiques. Donc, ça va être important de choisir nos items. Comme je vous l'ai dit, est-ce qu'on va choisir des mots, des pseudo-mots? On va s'attarder évidemment aux spécificités aussi orthographiques. Si on évalue les morphogrammes grammaticaux, on va s'assurer que nos mots ou nos phrases, en tout cas, impliquent que l'enfant mette en application ses connaissances en lien avec les morphogrammes lexicaux. Puis, donc ça, c'est l'évaluation partielle. Et évidemment, de l'autre côté, on a l'évaluation globale ou l'évaluation exhaustive. Donc là, on est beaucoup plus dans une perspective de bilan. Donc ça peut se faire en début d'année. On va avoir le portrait de l'élève au début de l'année. Ça peut se faire à la fin d'une étape. Donc à la fin d'une étape, on veut voir quel est le niveau de nos élèves. Donc ça peut se faire dans ce contexte-là. Et évidemment, ça peut se faire en fin d'année aussi pour avoir un bilan très exhaustif, très complet de, par exemple, la production, la compétence orthographique de nos élèves. Ça peut se faire aussi chez l'orthopédagogue quand un enfant est référé. Donc la titulaire de classe ou le titulaire de classe réfère un élève à l'orthopédagogue qui va faire un bilan de cet élève-là. Et donc, pour avoir un portrait le plus juste possible de la compétence orthographique de cet élève, bah dans cette perspective-là de bilan, on va faire une évaluation globale ou exhaustive. Et donc, c'est dans ce contexte-là que ça peut être intéressant d'aller chercher des tests qui sont standardisés. Pour avoir un portrait, puis en fait, c'est pour situer l'élève en difficulté par rapport à une norme qu'on va utiliser un test standardisé. Parce que le test standardisé, il est standardisé parce qu'il a été soumis à un grand nombre d'élèves. Plus il y a d'élèves, et mieux c'est. Et donc, on a une espèce de norme et c'est ce qui va nous permettre ensuite de situer notre élève par rapport à cette norme-là. Donc, c'est dans ce contexte-là que le test standardisé est intéressant. C'est vraiment pour situer notre élève en difficulté par rapport à une norme. Il y a des défis par rapport aux tests standardisés parce que la plupart ne sont pas québécois, même si de plus en plus on a des tests standardisés au Québec, mais il reste que la plupart de nos tests standardisés proviennent d'Europe. Et donc, il faut faire attention parce que des fois, il y a des contextes dans certaines tâches qui ne sont pas adaptés au contexte québécois. Et il y a certains mots non plus qui ne sont pas du tout adaptés. Je pense par exemple au mot bourg, B-O-U-R-G, qui est d'ailleurs un mot plus ou moins utilisé en France, mais en tout cas beaucoup plus qu'au Québec. Et donc là, ça devient problématique parce qu'on a tout l'aspect vocabulaire, connaissance sémantique rattaché aux mots qu'on n'a pas au Québec. Et donc, ça peut nuire en fait tout simplement à la capacité de l'enfant à répondre à la tâche, non pas parce qu'il n'a pas les connaissances pour répondre à la tâche, mais parce qu'il ne connaît pas le mot en question. Donc, puis là, je parle du mot bourg, mais il y a plusieurs items là dans les tests standardisés qui proviennent d'Europe qui ne sont pas adaptés dans un contexte québécois. Donc, si on fait passer ces tests standardisés à nos élèves en difficulté, il faut avoir un regard critique par rapport aux résultats qu'on obtient et il faut nuancer, il faut être capable de nuancer les résultats, surtout quand on a conscience que oui, ce contexte-là, il ne fonctionne pas au Québec ou ces items-là ne fonctionnent pas. Donc, on peut les utiliser, mais il faut être vigilant, il faut être prudent, il faut être critique par rapport à ces tests-là. Après, on peut... Donc, ça, c'est c'est pour situer l'élève. Après, rien ne nous empêche d'utiliser certains tests aussi, de ces tests standardisés, parce que ça donne des idées de tâches évaluatives à faire à nos élèves, mais dans un contexte d'évaluation partielle. Donc, on n'est pas obligé de faire le test de A à Z, mais on peut tout à fait utiliser certaines tâches qui nous permettent d'évaluer certaines connaissances de nos élèves.
Ça, tu parlais du mot bourre. Moi, à chaque fois, ça me fait penser à brin et brun. Je ne sais même pas si je le prononce bien. Mais en France, dans les tests standardisés français, on ne fait pas cette distinction-là, alors qu'au Québec, on fait cette distinction-là. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération aussi.
Exactement, oui. Au niveau phonologique, en fait, des distinctions phonologiques qu'on ne fait pas en France, par exemple, mais qui sont faites ici, donc oui. Donc, il y a vraiment, ça faut être critique par rapport aux tests, puis dans l'interprétation, en fait, dans des résultats qu'on obtient si on utilise ces tests-là.
Exactement. Peux-tu nous parler des différentes tâches évaluatives qu'on peut mettre en place?
Oui, donc évidemment pour évaluer les propriétés phonologiques, en fait pas les propriétés, mais les connaissances rattachées aux propriétés phonologiques, on a toutes les connaissances qui sont rattachées à la conscience phonologique. Donc on peut évaluer la conscience phonologique de nos élèves à partir de différentes tâches que tout le monde connaît, j'imagine. Donc, on va parler des tâches de fusion, de segmentation, d'identification, de permutation, de suppression, de substitution. Donc, l'ensemble de ces tâches-là peuvent être utilisées à l'oral pour évaluer la conscience phonologique de nos élèves. Elles peuvent être utilisées aussi à l'écrit. Donc, à l'écrit, on peut utiliser une tâche de suppression, par exemple, de graphèmes, d'identification de graphèmes, donc combien il y a de graphèmes dans le mot bateau, par exemple, des tâches de segmentation. On peut utiliser des tâches de fusion aussi. On peut utiliser le graphème, mais ça peut être la syllabe aussi écrite ou orale si on est dans un contexte oral. On peut aussi, quand on travaille les correspondances entre les unités orales et les unités écrites, on peut demander à l'enfant de segmenter un mot en syllabes. Et pour chaque syllabe trouvée, on lui demande de proposer un mot qui contient la syllabe. Donc, par exemple, il a le mot « ami ». Donc, on lui propose le mot « ami », ça peut être fait à l'oral ou à l'écrit. Et à partir des deux syllabes, donc « a » et « mi », il doit trouver d'autres mots. Donc « a », il pourrait dire le mot « animal », par exemple. Et pour « mi », il pourrait dire « mitaine ». Donc le mot « mitaine » qui contient la syllabe « mi ». Donc il y a toutes sortes d'activités. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel aussi au niveau phonologique. Au niveau morphologique, donc c'est généralement un peu moins enseigné, un peu moins évalué. Donc, je trouve important de référer à l'ensemble des tâches qu'on peut utiliser pour évaluer les connaissances morphologiques de nos élèves. Toutes les tâches peuvent être utilisées à l'oral et à l'écrit. Donc, on a une tâche de jugement de relation. Donc, je vais vous donner pour chacune des tâches un exemple. Donc, le jugement de relation, c'est est-ce que les mots « fille » et « fillette » font partie de la même famille morphologique? Donc, dans ce cas-là, c'est oui. Donc, l'enfant doit être capable de repérer le « être » dans « fillette » et de repérer le « fille » pour dire que « fille » et « fillette » font effectivement partie de la même famille morphologique. On a une tâche de dérivation où on demande, par exemple, à l'enfant de continuer une phrase, donc de poursuivre une phrase. Donc, on lui dit « un homme qui danse est un ». Et là, il doit nous répondre « danseur ». Donc, on part d'une base qui est « danse », puis l'enfant doit en faire un mot dérivé. Donc, à partir d'une base, l'enfant doit dériver le mot. On a aussi une tâche de jugement de plausibilité. Donc, est-ce que entre « redanser » et « redéfaut », lequel ressemble le plus à un vrai mot? On prend un préfixe, là dans ce cas-là c'est un préfixe et une base, puis on demande à l'enfant là, de repérer celui qui ressemble le plus à un vrai mot. Ça peut être fait avec les tout petits. En fait, il y a vraiment plusieurs tâches qui peuvent être faites avec les tout petits. On parle même avant l'apprentissage formel de l'écrit, parce que l'enfant très tôt en fait développe des connaissances morphologiques bien avant l'apprentissage formel de l'écrit, et on se base sur ces connaissances-là pour justement enseigner la lecture et l'écriture en première année. Donc il y a certaines tâches à l'oral évidemment, parce qu'ils ne savent pas lire et écrire à la maternelle, mais on peut à l'oral commencer à proposer ces tâches et évaluer nos enfants de façon ludique, là, à travers le jeu. on peut utiliser ces différentes tâches-là. On a aussi une tâche de décomposition, donc où on demande par exemple à l'enfant d'encadrer la base puis d'encercler le préfixe dans chacun des mots ci-dessous. Donc, on pourrait avoir les mots décollé, malpropre et imprévu. Donc, on demande à l'enfant d'encadrer collé, propre, puis prévu, puis d'encercler le préfixe des, mal et un. On a aussi une tâche qui s'appelle sens des affixes, où on demande à l'enfant de donner une définition d'affixes. Donc là, c'est des préfixes comme pré, anti et re, donc trois préfixes, puis on demande à l'enfant d'en donner une définition. Puis finalement, on a une tâche de jugement d'intrus. Donc on demande à l'enfant de trouver l'intrus parmi trois items, donc entre oiseau, éléphanteau et lionceau, quel est l'intrus? Puis évidemment, c'est oiseau parce que éléphanteau et lionceau, on a le O qui signifie le bébé de l'animal. Pour ce qui est des tâches pour évaluer les connaissances visuelles, mais aussi phonologiques et morphologiques, en fait, c'est toute la pertinence des dispositifs dont je vais vous parler, c'est que ça nous permet vraiment d'évaluer toutes les connaissances en lien avec les trois propriétés du code, mais on peut aussi cibler certaines propriétés, voire certains phénomènes à l'intérieur des propriétés. Donc, on a le dispositif des orthographes approchées. On a aussi toutes les dictées métacognitives, donc la dictée zéro faute, la phrase dictée du jour, la dictée donnée. Donc, on a toutes sortes de dictées hein, qui s'éloignent vraiment de la dictée traditionnelle, qui est encore utilisée, qui peut être pertinente dans certains contextes, mais à utiliser avec un objectif bien précis en tête. Mais il faut vraiment essayer d'aller vers d'autres types de dictées, comme les dictées métacognitives, qui ont fait leurs preuves. Il y a vraiment plusieurs données maintenant de recherche qui nous indiquent que ces dictées sont efficaces, que ces dispositifs, en fait, sont efficaces parce que... pourquoi? Bah parce qu'on met l'enfant... en interaction avec l'adulte, mais aussi avec ses pairs. Donc, l'interaction favorise vraiment le développement des connaissances chez les élèves. On met l'enfant aussi dans une situation de doute, d'hypothèse. Donc, on lui fait faire des hypothèses, il a des doutes, et c'est justement cette confrontation aussi entre les propositions qu'il fait par rapport à certains mots et la norme ensuite qu'on lui présente, parce que dans tous les dispositifs, la norme est présentée. Donc, c'est cette confrontation entre ce qu'il a produit et la norme qui fait qu'il développe ses connaissances. Donc, faut aller vers ces dictées métacognitives-là qui ont vraiment porté leurs fruits. Il y a plusieurs études qui ont porté sur l'orthographe grammaticale, qui ont utilisé ces dispositifs-là, mais c'est tout à fait pertinent aussi pour évaluer, travailler en fait et évaluer, parce que ça nous permet de faire les deux, à la fois enseigner et évaluer l'orthographe lexicale, toutes les connaissances en lien avec l'orthographe lexicale. Puis je vous conseille fortement d'aller regarder la thèse de Noémia Ruberto qui a été publiée en 2019, qui fait une très belle synthèse des dispositifs d'enseignement de l'orthographe et qui aborde ces différentes dictées métacognitives. Donc, elle en fait une très belle synthèse et il y a un tableau récapitulatif là avec les différents dispositifs. Donc, une belle référence là, pour les enseignants et les orthopédagogues. Pour ce qui est des tâches, pour les connaissances visuelles, j'en ai parlé, mais on peut utiliser une tâche de décision lexicale. Donc, par exemple, demander à l'enfant est-ce que pantalon est un mot, mais pantalon est écrit P-E-N-T-A-L-O-N. Donc, l'enfant pourrait répondre oui. Puis, il aurait raison sur le plan lexical, sur le plan phonologique, pantalon, P-E-N-T-A-L-O-N, c'est correct. Mais ce n'est pas correct sur le plan orthographique. Donc, on pourrait évaluer comme ça les connaissances de l'élève. Là, ça nous permet d'évaluer ses connaissances phonologiques, mais aussi, évidemment, ses connaissances visuelles. Et après, on présente la norme orthographique. Ça, c'est essentiel. On peut avoir aussi une tâche de jugement orthographique. Donc, par exemple, quel mot parmi phoque, P-H-O-Q-U-E, phoque, F-O-Q-E ou phoque, F-P, pardon, H-A-U-Q-U-E, c'est pas facile, et le bon mot. Donc, parmi trois items, finalement, avec deux items qui contiennent des graphèmes qui sont erronés, puis le mot qui est correctement écrit, quel est le bon mot? Donc, encore une fois... l'enfant doit être exposé à la norme après. Il y a tout un débat, hein, vous le savez, autour de la présentation des erreurs. Donc, ces dispositifs nécessairement impliquent que l'enfant soit exposé à l'erreur. Mais il y a vraiment plusieurs éléments qui nous font dire que ça ne devrait pas être un frein à la mise en application de ces dispositifs-là, le fait que l'enfant soit exposé à l'erreur. Non seulement parce que, comme je l'ai dit, il va être confronté à la norme, c'est essentiel dans tous les dispositifs qu'on présente, la norme est présentée, et parce que l'enfant en difficulté fait de toute façon, fait nécessairement des erreurs, donc il est exposé à l'erreur. Mais c'est où est son erreur? Par exemple, pantalon, s'il l'écrit P-E-N-T-A-L-O-N, ben, son erreur, c'est seulement un graphème. Donc, c'est important de revenir sur le type d'erreur. Donc, le mot, phonologiquement, il est plausible, mais on va revenir sur ses connaissances visuelles. Donc, on va évaluer sa capacité à écrire le mot. Puis, on se rend compte que finalement, c'est juste le « e » qui est problématique dans le pantalon. Donc, voilà, c'est juste quelques idées là, de tâches évaluatives pour évaluer les propriétés visuelles. Mais toutes les à travers ces dispositifs-là, toutes les propriétés du code orthographique.
Oui, ça me fait penser. Bon, premièrement, on va mettre dans les commentaires, Christelle, tu me corriges si j'ai faux, mais on va mettre la ressource que tu as mentionnée de Noémia pour que les gens puissent avoir accès à cette ressource-là. Et aussi le site MorphoPlus qui donne beaucoup, beaucoup de ressources sur la morphologie qui est accessible, qui est gratuite, etc. Donc, ça peut être aussi une autre ressource pour orthopédagogue, mais pour enseignants, c'est… Voilà, c'était mon petit ajout de ressources. on est bientôt rendu à la fin de l'épisode et j'ai une dernière question pour toi. Comment on peut dresser un portrait le plus représentatif pour mettre en place les interventions les plus pertinentes?
Oui, puis c'est un peu en lien avec ce que je viens de mentionner. Généralement, ce qu'on fait encore aujourd'hui, c'est que on va faire une évaluation globale, donc on va regarder dans une production de texte les mots bien écrits, puis les mots qui contiennent une erreur. Et pour ceux qui contiennent une erreur, on va les pénaliser, on va pénaliser les lettres. Donc, si on a, je ne sais pas, là je parlais de production de texte, mais mettons que c'est une liste de mots qu'on demande à l'enfant de produire, ben on va mettre un point si le mot est correctement écrit, puis on va mettre zéro si le mot contient une erreur ou plusieurs, là, parce que ça peut être plusieurs erreurs aussi qui sont intégrées dans le mot. Donc, mais on va passer de 0 à 1. Donc, pour avoir un portrait plus représentatif du niveau de l'élève, ce qui est important, c'est de considérer deux éléments. Le premier élément, c'est évaluer la plausibilité phonologique du mot. Donc, par exemple, pour pantalon de tout à l'heure, l'exemple de pantalon, il était phonologiquement plausible. Donc, pourquoi c'est important? Parce que quand l'enfant va produire un texte, l'objectif ultime, c'est de se faire comprendre. Donc, s'il écrit pantalon, le lecteur va lire pantalon et il va comprendre ce que l'enfant veut dire. Donc, c'est essentiel qu'au niveau phonologique, ce soit plausible. Donc, ça, c'est le premier élément. Évaluer la plausibilité du mot qui a été produit par l'enfant. Si oui, c'est un plus, et évidemment qu'on va se baser sur cette force de l'élève. Sinon, ben ça va nous permettre de dire, faut que je continue à travailler les propriétés phonologiques, les connaissances en lien avec les propriétés phonologiques de l'élève. Donc, on va continuer à travailler cet aspect avec l'élève. Si dans une production, soit une liste de mots, soit une production de texte, la grande, grande majorité des mots contiennent des erreurs, mais sont phonologiquement plausibles, ben on peut mettre de côté tout l'aspect phonologique pour se centrer sur les autres propriétés du code orthographique, donc les propriétés morphologiques et visuelles. Donc ça, c'est le premier élément, évaluer la plausibilité. Parce que si c'est plausible, ben on peut émettre l'hypothèse qu'on a une certaine maîtrise là, des correspondances graphophonologiques. Mais par contre, la norme, elle n'est pas nécessairement respectée, comme dans le pantalon écrit EN plutôt que AN. Et donc là, ben, on va évaluer au niveau graphémique plutôt que lexical. Donc, plutôt que de dire, bon, ben, pantalon, c'est zéro parce que c'est EN plutôt que AN, ben, on va regarder au niveau graphémique. Alors là, évidemment, ça prend plus de temps parce que c'est une évaluation qui est très fine au niveau du mot de l'enfant, mais ça nous permet vraiment d'avoir une belle représentation de où est rendu l'enfant, quel est son niveau, quelles sont ses forces, puis quels sont les défis qu'il va devoir surmonter par rapport à l'orthographe. Donc, on va regarder au niveau graphémique et là, on va en fait catégoriser les erreurs de l'élève. Donc, on n'est pas obligé de le faire pour tout le texte, on peut catégoriser seulement certains types d'élèves je reviens à mon objectif de départ. Si mon objectif, c'était les lettres muettes, ben, je vais regarder quelles sont ces erreurs. Est-ce que c'est des omissions de lettres muettes? Est-ce que c'est des ajouts de lettres muettes? Parce que des fois, ils nous en rajoutent, mais sans que ce soit nécessaire. Est-ce que c'est des substitutions? Donc, ce n'est pas la bonne lettre muette. À toujours, l'enfant rajoute un E plutôt qu'un S, par exemple. Donc, on va regarder quels sont les types d'erreurs. Et on peut cibler ces erreurs-là en fonction de notre objectif de départ. Mais le fait de faire une évaluation au niveau graphémique, puis de catégoriser les erreurs des élèves, va vraiment nous permettre de dire, bon, bah, dans ce texte-là de l'élève, je peux tout à fait avoir une évaluation au niveau lexical, puis de me dire, bon, il y a encore un grand nombre d'erreurs, il y a vraiment plusieurs mots qui sont problématiques. Mais quand on regarde au niveau graphémique, ça nous donne un portrait beaucoup plus précis de l'élève. Donc, d'avoir les deux portraits, ça peut être vraiment intéressant. Ça nous fait justement un portrait qui est plus complet, qui est plus représentatif de l'élève.
Là, on est rendu à la fin de l'épisode, mais je me souviens qu'on avait fait notre première rencontre, puis tu nous avais parlé aussi de la conscience phono. Et je voulais qu'on prenne deux minutes là-dessus, l'importance de faire les tâches à l'oral quand on travaille la conscience phono. Et je pense que ça peut servir pas mal d'orthopédagogues ou enseignants ou rôle conseil pour enseignants. Peux-tu nous en dire un peu plus? Je n'ai pas tous les mots exacts, mais je suis sûre que tu vas mieux le faire que moi.
Oui, mais la conscience phonologique, maintenant, ça fait évidemment de nombreuses années qu'on sait qu'elle est, elle est fort importante pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, quand on parle de conscience phonologique, c'est qu'on est à l'oral. Donc, c'est que l'enfant est capable de manipuler les unités orales du français. Donc, on peut parler de la rime, on peut parler de la syllabe orale et on va parler du phonème. Donc, quand on parle de conscience phonologique, on est dans un contexte oral. Ça veut dire que toutes nos tâches évaluatives, parce que là, on a beaucoup parlé d'évaluation, devraient être à l'oral. Ce qui veut dire, c'est ce que ça veut dire en fait, c'est qu'il n'y a aucun support écrit qui devrait être soumis, proposé à l'élève. Donc, toutes les tâches de fusion, de segmentation, d'inversion, etc., de syllabes ou de phonèmes, ça devrait être tout fait à l'oral. Donc, on peut avoir des images, évidemment, mais sous l'image, on ne devrait pas avoir le mot écrit. À partir du moment où il y a le mot écrit, là, on traite des correspondances entre les unités orales et écrites. Et donc, on est plus strictement dans la conscience phonologique, mais on est vraiment dans les correspondances graphème-phonème. On est dans le traitement graphophonologique. Donc, évidemment que c'est à travailler aussi. Tout est à travailler, mais il faut être conscient que quand on travaille la conscience phonologique, toutes nos activités devraient être à l'oral. Donc, on peut utiliser des images, mais aucun support écrit. Donc, en aucun cas, on devrait avoir le mot écrit quand on parle de conscience phonologique. La conscience phonologique, elle va être travaillée dès la maternelle 4 ans. Elle est travailler encore en maternelle 5 ans. Elle va continuer d'être travaillée en première année. Et évidemment, en première année, avec l'apprentissage formel de la lecture et de l'écriture, là, on rentre vraiment dans le traitement graphophonologique avec justement ce lien entre les unités orales et écrites. Mais la conscience phonologique va continuer d'être travaillée au-delà de la première année avec des élèves en difficulté, notamment des élèves dyslexiques, dysorthographiques. Donc, et c'est important en fait de faire la distinction entre conscience phonologique où on est seulement dans un contexte oral et traitement graphophonologique où on est entre les unités orales et les unités écrites. Donc c'est vraiment la correspondance là entre phonème graphème.
Merci beaucoup Agnès pour cet épisode. Ce que je retiens, c'est d'avoir un objectif clair et d'avoir les connaissances du code pour pouvoir évaluer notre élève et après faire des interventions en fonction et en lien de ce qu'on a observé. Je te remercie beaucoup.
Merci à vous, ça a été un plaisir.
Le balado Micro ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucille Denis et Christelle El Akouri en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
Vous avez aimé cet épisode? Vous souhaitez laisser un commentaire? Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.